merci beaucoup. Donc moi j'ai une question par rapport à l'articulation sur le fait que vous êtes donc Bénédicte Cadère, préfecture de Paris, je travaille sur la politique de la ville. Donc sur l'articulation entre les objectifs de la politique de la ville avec la précarisation, etc.
Donc qui est votre numéro 1 dans vos enjeux,
en fait, c'est quand même l'inégalité d'exclusion sociale. Et la question de l'écologie d'une manière générale, hein, enfin, que ce soit la transition, en tout cas tout ce qui est l'écologie dans les quartiers prioritaires. Moi, aujourd'hui, dans ce que j'en vois, c'est à la fois pas encore un de nos axes de priorité dans nos appels à projets, déjà. Donc, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à nos associations spécifiquement candidatées avec des projets qui ont trait à ça, dans la politique de la ville, que ce soit au niveau de la ville ou de l'État, par ailleurs, enfin, pareil, puisqu'on fait des appels à projets ensemble. Et donc, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que je ne sens pas encore la mobilisation des habitants. Certains habitants, oui. On a des associations qui interviennent dans ces quartiers, oui, mais quand même, quand on va visiter les résidences avec les bailleurs sociaux, enfin on est assez loin, voilà, franchement, on en est encore à se poser la question de ce qu'on parlait de la tri des déchets, donc on est quand même hyper loin encore de la, il me semble, hein, de l'enjeu transition écologique au niveau des bailleurs sociaux dans ces territoires-là. C'est un peu vous, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question, et comment, et j'ai la même question du côté de Rennes en fait.
Ok, alors d'accord, je m'en souviens. Politique de la ville.
Mais qu'est-ce que moi, si j'ai noté, même si avec une expérience plus locale, j'ai envie de répondre. Vos deux interventions résonnent fortement, je trouve. La première, c'est sur la question de la commande publique. Vous avez tous les deux fait référence au faible impact finalement de la ville toute seule par rapport à la globalité du problème. Vous avez parlé de 3%, et en même temps, la commande publique, elle a quand même un effet extrêmement fort, d'abord sur les, pour tester des innovations en termes de construction, de réhabilitation des bâtiments. Si la commande publique ne teste pas les innovations technologiques, qui le fera? Et donc le fait que de placer haut l'expérimentation, l'innovation technologique peut être, dans le bâtiment par exemple, peut être un vrai levier pour ensuite, derrière, déclencher des marchés. Je pense aussi aux cantines. Si aller sur les marchés de circuits courts et bio, les collectivités territoriales, elles changent complètement l'agriculture si elles se mettent toutes à avoir des commandes qui sont assises sur des exigences de production, etc. Petit à petit, elles peuvent. Voilà. Ensuite, la question de la participation habitante, vous avez aussi des positionnements un peu différents. Beaucoup d'enthousiasme sur l'expérience de Paris, des doutes un peu sur les budgets participatifs avec votre expérience à Rennes. En version positive, je trouve que vous avez parlé notamment que ça renouvelait la place politique finalement, puisqu'on les retrouve sur des listes. Ça, c'est quand même un avantage en soi, il me semble, c'est-à-dire que si les budgets participatifs apprennent à des citoyens à se mettre en branle pour porter des idées pour demain, c'est comme on a quand même avancé. Et la deuxième chose positive que je trouve aussi, c'est que dans des collectivités qui ne sont pas convaincues et qui n'ont pas mis la transition écologique au premier plan, on peut voir que dans les budgets participatifs, les habitants, eux, le font, et que ça peut avoir une vertu pédagogique vis-à-vis d'élus qui sont moins sensibles et moins acteurs de cette question, et les pousser finalement à aller plus loin. On a vu des projets d'espace public dans des collectivités qui étaient vraiment réticentes à limiter la place de la voiture, qui ont bougé au cours du mandat parce qu'ils se sont rendus compte que tous les budgets participatifs volontaires d'habitants amenaient vers ce genre de choix, alors que eux-mêmes étaient timides là-dessus. Donc voilà, c'était pour positiver un
peu les deux.
Okay. Alors, politique de la ville. En fait, le service, je vais dénoncer le service qui ne savait pas ce qu'était un DICRIM. Hier, c'était devant tout le service politique de la ville que je faisais à peu près la même intervention. Parce que nous partons dans un projet d'expérimentation sur trois quartiers résilients, dans trois quartiers politiques de la ville, avec des typologies différentes. Dans la logique, pareil, on teste rapidement, on évalue, et si ça fonctionne, on scale aux 40 autres. On se base là-dessus sur un certain nombre de choses. Le premier, c'est, je partage complètement votre constat. J'aurais pu dire tout ce que vous avez dit, même de notre côté, on le vit de la même manière. Les habitants, c'est pas la priorité, etc. C'est pas un sujet aujourd'hui qui est majeur, complètement. Néanmoins, par exemple, on a réalisé des études d'impact en santé. Vous savez, quand on superpose à la fois les problèmes du bâti, les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux. Et quand on fait ça à Paris, l'étude n'est pas encore officielle, elle n'est pas encore sortie, mais elle va sortir bientôt. C'est assez impressionnant de voir que le zonage correspond peu ou prou à celui de la politique de la ville, c'est-à-dire évidemment, hein, ce sont ces quartiers qui souffrent le plus de la pollution de l'air, qui souffrent le plus des îlots de chaleur urbains, qui souffrent le plus des passoires énergétiques, qui, etc., etc. Et donc, on a un travail de pédagogie à faire, peut-être, mais en tout cas, c'est certain que ça doit être une priorité que d'aller parler de tout ce qu'on dit là et de la transition dans ces quartiers d'abord, parce que par ailleurs, ce sont aussi des habitants qui n'ont pas de plan B, qui ne partent pas en week-end, qui, etc., etc., etc. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, pour être crédible sur tout ce qu'on raconte là, il faut commencer par les quartiers en politique de la ville. On se base notamment sur un exemple, alors il n'y a pas que Rotterdam dans le réseau, mais qui a fait quelque chose d'assez incroyable, le Resilient Botou, cherché sur Internet, BO-TU, deux quartiers qui sont les plus pauvres de Rotterdam, qui sont là-bas le test du premier quartier résilient, et il y a tout un tas de choses très intéressantes. Nous organisons du coup un jumelage ou un échange de bonnes pratiques. Ils étaient là la semaine dernière, une délégation de 22 personnes, donc 15 habitantes et habitants, qui sont venus avec les directrices d'école, avec les équipes de développement local de la mairie, enfin l'écosystème qu'on a dans nos territoires politiques de la ville, pour partager leurs bonnes pratiques. Et je glisse juste une des choses qu'ils nous ont dites, moi, qui m'a complètement impressionné, et qui va répondre à la logique, enfin, une partie de la deuxième question sur la participation citoyenne. Une de nos collègues demandait à l'habitante, ah, vous parlez beaucoup de participation, à une habitante de Rotterdam, en disant, mais vous avez 14 000 habitants dans votre quartier, est-ce que, quand la mairie organise ces choses, est-ce qu'il y a une vraie participation? Est-ce que vous avez toutes les classes sociales? Est-ce que vous avez tous les âges, etc. Là, l'habitante se tourne vers ma collègue et dit, mais vous prenez les choses à l'envers. Vous êtes le système. La mairie, le système, etc. Nous, on est la vraie vie. La vraie vie qui existe avec des gens qui ont des initiatives, qui font des choses. Donc la participation, c'est pas vous qui nous demandez si on va participer. C'est nous, habitants, qui voyons si on laisse ou pas le système participer à notre vraie vie. La participation dans l'autre sens. La participation, c'est est-ce que le système participe à la vraie vie des gens, va être capable de voir les dynamiques existantes, les connexions, les micro-projets qui étaient partis entre voisins, etc. Et arriver avec la force publique en disant on va soutenir, développer ces initiatives existantes, donc c'est la force publique qui vient participer à la dynamique. Ou est-ce que c'est, désolé, mais quelques élus et quelques techniciens qui disent alors nous, les habitants des politiques de la ville, on va dire qu'ils doivent travailler sur ça, ça, ça et ça, et puis on va les faire participer. C'est quand même un switch de lunettes assez impressionnant. Je pense que les bonnes solutions sont certainement un peu des deux et tout ça, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant en switch. Je termine sur le budget, sur la commande publique, pardon. Sur la commande publique, alors ça c'est absolument central. Je vous montre ce petit slide là, c'est un travail qu'a fait I4C notamment, qui a essayé de taguer le budget de l'État. En disant, si on prend le budget de l'État, qu'est-ce qu'on peut dire qui est compatible climat, grosso modo, et qui ne l'est pas? Avec beaucoup de travail, ils sont arrivés, vous voyez, à taguer 3% à peu près de très mauvais, 3% de très bon. Mais même ça, c'est challengeable, parce que dans le très bon vert, par exemple, il y a des plans vélo. Des plans vélo, aménagement de pistes cyclables. Bah, oui, ça peut être bien pour l'atténuation, mais si c'est en asphalte noir imperméable, c'est pas du tout bon pour l'adaptation, donc ça devrait être dans le rouge, hein, ça devrait pas être dans le vert. Parce que si on fait que l'atténuation, on règle que la moitié du problème, etc. Et si je vous donne l'exemple sur cette question mainstream versus à côté, la commande publique est le meilleur exemple. Beaucoup de collectivités ou plusieurs territoires lancent des fonds d'investissement transition pour essayer de faire muter l'économie des territoires. À la ville de Paris, on a créé un fonds qui a bien fonctionné, qui fonctionne bien, un fonds vert qui vise à prendre des participations, à investir dans des PME, TPE qui développent des projets, des procédés qui sont favorables à tout ce qu'on raconte là. On va, sur un mandat, arriver à lever entre 360 millions et 400 millions d'euros. C'est pas mal, c'est intéressant. Mais dans le même temps, la commande publique annuelle de la ville de Paris, donc l'argent que la collectivité donne aux entreprises, c'est 1,6 milliard par an, qui, jusqu'à une période récente, était peu ou pas critérisé. Maintenant, on a un schéma de la commande publique responsable qui vise à faire en sorte qu'effectivement, à travers le cahier des charges, en fait, si on change nos cahiers des charges, l'économie va muter. Hein. Et donc, on a. Et là encore, on est dans le mainstream. On n'est pas dans le truc d'à côté qu'on fait pour la transition. Donc, je trouve que c'est un excellent exemple de parler de la commande publique comme un levier fort de réponse à ces enjeux.
Vous avez parlé Merci pour les questions.
On regarde sur le politique de la ville pour mettre un peu de nuance parce que effectivement, on a fait une constat à Rennes sur la politique de la ville, à quel point elle était assez hermétique au dynamique de transition écologique. Et du coup, on va voir ça. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu plus d'énervement. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a aussi potentiellement une représentation des habitants des quartiers prioritaires comme étant ceux qui sont dans la bouffe, ceux qui sont dans des passoires énergétiques et qui détruisent plus que les autres, etc. Alors que finalement, la connaissance des modes de vie, je dirais, des ménages les plus modestes, quand vous avez moins de 900 euros par mois, vous n'êtes pas important sur la planète. Voilà. C'est une évidence et c'est les premiers contributeurs, pas au volet adaptation, mais au volet réduction. Et je trouve par exemple que typiquement sur moi je fais un regard critique là-dessus, c'est des choses qui me tiennent à cœur, sur les dimensions de l'agriculture urbaine, les premiers agriculteurs urbains sont les habitants des quartiers prioritaires dans les parcelles de jardins ouvriers, et ça date de très longtemps, et je trouve que c'est. D'ailleurs, c'est un truc qui n'est pas valorisé. C'est-à-dire que dans la politique de la ville, ce qui se passe, le lien social, de gestion, d'autogestion, parfois conflictuelle, avec des trucs de communauté très très. Enfin, qui serait un terrain d'étude absolument génial, c'est un impensé. Alors que vous avez là des gens qui autoproduisent leur et puis pour se battre pour les parcelles, je veux dire, dans son ville comme Rennes, c'est vraiment très très. Très très dur. Je trouve que oui, il faut intégrer la question de la transition écologique, mais pas sur un volet un peu réparateur, comme si on devait apprendre les choses. Enfin, je trouve que là, il y a quelque chose d'assez fort, et je pense qu'à l'inverse, ce serait en fait une façon de valoriser ces quartiers qui sont finalement peu en fait, par rapport à cette ville. Marché public, moi je suis sur la méthode depuis. Des années, donc je sais que c'est à cet endroit que beaucoup de choses se passent. Et en même temps, sur ce qui sur le vieux la cantine, hein, quand on connaît les marchés d'approvisionnement, comme moi je les connais, le marché municipal qui est à 100% bio, vous êtes mort. Moi j'étais très énervée. Parce que vous avez deux groupes qui approvisionnent les restaurants qualité. Donc à partir du moment où vous marquez ce que vous allez acheter, c'est-à-dire les vendeurs au prix, en provenance de nous, moi je crois qu'il y a une façon de concevoir effectivement la commande publique dans une logique d'accompagnement des transitions. Et typiquement sur la question de l'alimentaire, on se rend compte que ce que disait très bien la ville sur la question du moins-disant, etc., il va falloir en fait à la fois mobiliser la commande publique mais réfléchir à la commande publique. C'est-à-dire que et sortir des prismes et qui sont là, qui nous imposent. Enfin, je vois sur le volet commandance scolaire, sur la métropole de Metz, on est parti sur un projet de territoire d'innovation. Alors il y a un peu. c'est la grande machinerie, mais typiquement, les produits sont pas bio. On est dans de l'achat de marché, alors c'est compliqué, hein. On n'a pas fait d'achat local, on a fait des marchés environnementaux pour approvisionner des cantines scolaires sur les 3000, enfin, dont on espère les 3000 exploitants des zones de captage de l'eau. Mais on a eu à savoir est-ce qu'on n'avait que des producteurs, on a préféré en fait utiliser plutôt le volet levier pour la transformation. C'est-à-dire que ce qu'on a l'achat de marché d'environnement, c'est bien plutôt une logique, au lieu d'aider un agriculteur avec des aides européennes, c'est comment on l'aide à se transformer.
On prend trois questions rapidement.
Hyper
rapide avec des réponses hyper rapides.
Bonjour, je ne sais pas si la réponse sera rapide, la question va l'être. Marie Chuviette, je suis à la région Île-de-France et je travaille sur la ruralité des parcs naturels régionaux. Donc je rebondis sur votre dernier point qui m'interpelle sur la coopération territoriale avec les territoires périurbains et ruraux. La coopération urbain-rural, on voit à peu près comment ça fonctionne sur une métropole régionale. Sur l'Île-de-France, comment ça se passe, comment vous voyez les choses, parce que c'est effectivement un sujet fondamental, mais qui me paraît absolument insoluble aujourd'hui.
Enfin,
une.
Ça va bien ?
C'est pas grave. Alors, c'est effectivement certainement beaucoup plus difficile dans le cas de la métropole parisienne que dans le cas d'autres territoires. Néanmoins, il y a eu une volonté un peu précurseur le jour du vote de cette stratégie de résilience par le Conseil de Paris. La maire de Paris, le président de la métropole du Grand Paris et le président de l'Association des maires ruraux de France, l'AMRF, donc qui dépend de l'AMF, mais pour les communes de moins de 3500 habitants, ont signé une forme de déclaration d'intention à ce stade. Déclaration d'intention, on est parfaitement conscient qu'on a des intérêts totalement liés et on va tester des nouvelles coopérations. Les domaines qui ont fait l'objet d'ateliers et de tests en ce moment sont par exemple faire coïncider la carte de la localisation géographique de nos agents avec les communes de l'AMRF qui ont des espaces qui pourraient accueillir des mini-centres de travail partagé pour éviter et réduire les déplacements pendulaires des agents qui peuvent le faire. Hein. On sait que toutes les catégories d'agents ne peuvent pas télétravailler. Il y a une des actions de la stratégie de résilience qui était, face à des chocs potentiels qui arrivent, investir massivement, et ça c'était il y a 2 ans, dans le télétravail. Hein, en disant, quand le territoire sera bloqué, on sera bien content d'avoir des infrastructures pertinentes de télétravail. On voit aujourd'hui qu'il faut y aller. Si on prend une organisation comme la ville de Paris, par exemple, sur nos 50 000 agents, on en a 10 000 qui peuvent télétravailler demain sans aucune difficulté technique, managériale, etc. Ces 10 000 déplacements pendulaires, le matin, le soir, évités, et on ne parle que du grand compte parisien. Vous ajoutez les 50 plus grands comptes parisiens, privés comme publics, qui font tous pareil, on a des centaines de milliers de déplacements qu'on peut éviter chaque jour. Donc cette logique de, plutôt que de toujours chercher à se déplacer mieux, plus vite, plus loin, et plus écologique, ah, il y a un truc encore plus écologique, se déplacer moins, et ça coûte moins cher aux finances publiques. Hein. Ça c'est un des sujets. On a fait aussi un peu la même chose avec des territoires autour de nos puits de captage pour que les lentilles qui sont produites par les agriculteurs qui sont sur place viennent alimenter nos cantines. On se fracasse quand même au code des marchés publics. Hein. Tant qu'on est en expé, ça marche. Quand on sort de l'expérimentation, on tombe vite dans des logiques de concurrence libre et non faussée. Hein. Donc c'est pas facile, y compris juridiquement, aujourd'hui de développer le circuit court. Les autres types de coopération, par exemple le Conseil de Paris de février, je crois, a voté une nouvelle coopération avec le PTR du nord de Lyon. Mais alors, PTR, je ne sais plus ce que ça veut dire.
Pôle d'équilibre.
PETR, voilà. Pôle d'équilibre territorial régional. Voilà, et rural. Et on a comme sujet le fait de travailler sur de la décentralisation de production énergétique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'énergie qui pourrait être produite là-bas sur la base de méthanisation ou autre et que nous, on pourrait racheter sur les logiques d'alimentation. Et donc, puisque c'est pas très loin, est-ce qu'on peut trouver des voies et moyens pour que les productions agricoles puissent arriver là et je pense qu'on a aussi quelque chose de mémoire, j'ai plutôt en tête sur l'inondation, parce qu'on est sur le bassin versant, et qu'on travaille aussi à l'échelle de avec la métropole, à une échelle plus lointaine, pour reconstituer des zones naturelles d'expansion de crues dans les anciens méandres, et qui permettent de réduire l'impact d'une grande inondation avec de la renaturation. Mais ça passe par des servitudes qu'on passe avec les agriculteurs, les territoires. Et puis il y a un fonds d'indemnisation qui a été créé aussi pour que si on inonde la campagne pour protéger la ville, entre guillemets, ça puisse se faire de manière plus juste avec des processus d'indemnisation connus à l'avance, etc. Donc c'est balbutiant, ça démarre. Mais c'est fondamental pour la suite que ces coopérations puissent se tisser bien davantage.
Oui.